code éthique pour la pommerie Dominique Philippe, le 22 mars 2002 à 16h.
Je réponds aux questions. Vous nous avez parlé de la transformation que la découverte de l'être premier opère sur l'amitié. On sait que le premier amour est pré-moral, pré-éthique. Mais y aurait-il cependant une modalité particulière du premier amour en éthique religieuse ou chrétienne? C'est-à-dire, distinguez bien, en éthique chrétienne, oui, puisqu'il y a l'amour. N'est-ce pas ? En éthique religieuse, il y a une nouvelle finalité. Donc le premier amour reste ouvert à la finalité, mais n'est pas déterminé à la finalité. Il vient de la finalité, mais il n'est pas explicité. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il y ait un nouvel amour. C'est-à-dire, est-ce que la bonté de la personne humaine est modifiée lorsque celle-ci découvre l'être premier ou vit de la foi? Distinguons bien la découverte de l'être premier et la découverte et la foi. Ce n'est pas la même chose. Hein. Et ainsi, est-ce que le premier amour qu'elle suscite en moi aurait une modalité particulière du fait de cette bonté nouvelle? C'est très délicat. Puisque ce qui m'attire, c'est la personne. Alors, c'est sûr que la découverte de Dieu explicite une nouvelle dimension de la personne humaine. La personne humaine est reliée à Dieu. Donc il y a une nouvelle dimension. Mais au point de vue de la spécification de l'amitié, je crois que c'est bien le premier amour, le même. C'est, vous voyez, on peut évidemment dire qu'il y a une nouvelle explicitation, puisque la personne humaine est découverte dans une dimension nouvelle de l'âme créée par Dieu, la découverte du Dieu créateur, du Dieu premier être et créateur. Alors, à ce point de vue-là, on peut dire que l'amitié à l'égard d'un ami est modifiée parce que son âme est vue comme créée par Dieu. Et donc, il y a nécessairement un respect beaucoup plus grand dans l'amitié. Parce que l'âme créée par Dieu lui donne une autonomie beaucoup plus profonde, beaucoup plus radicale. Alors, on peut dire, à ce point de vue-là, que le premier amour est modifié vis-à-vis de l'homme créé par Dieu, l'âme dont l'âme est créée par Dieu. Mais ça pourrait être, comme premier amour, il n'est pas encore dans l'explicitation parfaite de la finalité. C'est très difficile de préciser ça. Lorsqu'il s'agit de la foi, ça c'est net. Hein. Je peux être sûr que c'est autre chose. Mais quand il s'agit de la connaissance métaphysique que j'ai, cette connaissance métaphysique, sûrement au point de vue de la finalité de l'amitié, ça change. Le premier amour vis-à-vis de l'ami, il peut changer. Mais est-ce qu'il change nécessairement? Je poserai un point d'interrogation. Parce que dans l'amitié, vous aimez la personne. Alors c'est sûr que cette personne, quand on la voit comme créée, son âme est créée immédiatement par Dieu, on l'aime avec une profondeur nouvelle. Mais est-ce que le premier amour, qui est justement premier, il se porte sur la personne? Alors, la personne dont l'âme est créée par Dieu, il y a une profondeur nouvelle, mais qui n'est peut-être pas toujours exigée dans ce premier amour. C'est délicat, je n'oserais pas l'affirmer de façon catégorique. Parce que le premier amour porte sur la personne, et il y a déjà une personne. Personne va être explicité et va s'approfondir. Donc, dans l'approfondissement du premier amour, oui. Et l'approfondissement du premier amour ne change peut-être pas la qualité de ce premier amour. C'est un approfondissement. Foi, c'est sûr, c'est la charité. Vous dites que l'homme, ayant découvert Dieu, est invité à s'abandonner. Que veut dire s'abandonner? Peut-être justifier et expliciter intellectuellement. Peut-on justifier et expliciter intellectuellement et philosophiquement cette exigence radicale de l'abandon, c'est-à-dire la mise, la remise totale de notre volonté propre et de notre liberté entre les mains de Dieu? En quoi l'abandon est-il nécessaire à la personne humaine? Il est nécessaire à la personne religieuse. Et là encore, c'est une explicitation. Je ne crois pas qu'on dirait que ça détermine, mais c'est une explicitation. Quel est le lien entre l'abandon et ma finalité? Comment s'abandonner concrètement? Point d'interrogation. Bon, il est sûr que la découverte de l'existence de Dieu me permet de l'adorer, permet de voir que mon âme a été créée par lui et que donc il a créé mon âme par pure surabondance de miséricorde. Dieu n'était pas lié à créer mon âme. Il a créé mon âme vraiment par miséricorde. Et dans un amour libre, surabondant, ma réponse à cette découverte que Dieu a créé mon âme me met dans une attitude d'abandon. L'abandon regarde la finalité. C'est que, puisque je suis créé par Dieu dans sa sagesse, Dieu me crée avec un sens de ma finalité. En créant mon âme, Dieu me fait comprendre que ma finalité est entre ses mains, mais elle est comme due à mon âme spirituelle. Dieu s'engage en créant mon âme d'être père. Alors c'est ça, c'est toute la question de la paternité. Les stoïciens reconnaissent que Dieu est père. Or, la paternité, c'est de faire que les biens du père sont pour les fils. La paternité, c'est de nous conduire à une finalité qui est déjà possédée par le Père. Le Père nous s'engage comme Père à faire que ce qui est son bonheur soit notre bonheur. C'est ça la paternité. C'est lié à la finalité. Et par là, mais une attitude d'abandon. Je ne peux m'abandonner à Dieu que si je sais que Dieu pense et réalise pour moi ma finalité. Dieu veut mon bien. Et le bien qu'il veut, c'est un bien d'enfant, de fils, par rapport à ce qu'il est. Donc, c'est une participation au bonheur même de Dieu. Je ne connais pas le mode. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais c'est ça. Autrement, Dieu ne serait pas père. Or, Dieu, comme créateur de mon âme spirituelle, est mon père. Donc, déjà, dans l'éthique religieuse, indépendamment de la foi, Dieu est mon père. Dieu, en me créant, se lie à moi pour me donner un bonheur, son bonheur. C'est ça la paternité. C'est de considérer l'enfant comme héritier. Et donc, considérer que le bonheur propre de Dieu mais communiquer. Comment? Je ne sais pas. Alors, la foi me précisera. Mais naturellement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Dieu me prépare un bonheur qui est un bonheur qui est une participation à son bonheur. autrement Dieu ne serait pas père. Donc, la finalité est engagée dans la création de l'âme. Mon regard sur Dieu comme créateur est un regard de père qui m'adopte dans sa famille. Puisqu'il a créé une âme immortelle, il me crée un bonheur immortel. Si je suis vraiment fils, si je reconnais cette filiation, mon âme, je n'ai pas le droit de faire de mon âme n'importe quoi. Même naturellement. Et c'est là où l'éthique religieuse montre que s'abandonner à Dieu, c'est nécessaire, puisque je ne sais pas naturellement qu'est-ce que Dieu me réserve. Mais je sais qu'il me réserve quelque chose. Je sais qu'il est père de mon âme. Et je crois ça important à le voir. Parce que ça fait comprendre comment l'attitude de la laïcité française, c'est-à-dire une laïcité qui ne veut plus parler de Dieu, est contraire à la nature même de l'homme. Parce que c'est ne pas vouloir reconnaître que l'âme est créée par Dieu. Ce qu'on peut prouver naturellement et découvrir naturellement. Donc, c'est très grave. Cet athéisme est très grave. Parce qu'il est contre nature. Et c'est parce que justement il est contre nature que, à ce moment-là, au fond, l'autorité politique autorise des choses contraires à la morale humaine. On vit plus d'une façon plus laïque que les païens. C'est du reste normal. Un pays qui a reçu des grâces dans ses ancêtres et qui refuse ces grâces descendra plus bas qu'un païen qui n'a pas reçu ces grâces. Alors, oui, les deux questions se tiennent un peu. L'affirmation et la découverte de Dieu met nécessairement mon ami dans une position nouvelle par rapport à moi. Mon premier amour par rapport à lui doit s'expliciter différemment. C'est pour ça que le premier amour est modifié dans sa finalité. Alors c'est ça que je dirais. Il est modifié dans sa finalité. Mais comme cette finalité n'est pas précise, il n'y a pas de détermination précise. Donc, il est très difficile de préciser la qualité de ce premier amour. Je puisque au point de vue de l'amour, l'alpha et l'oméga se tiennent, hein, toujours. Si il y a une finalité précise, le début nécessairement est modifié. Mais si la finalité elle-même n'est pas précise, au point de vue naturel, purement naturel, je sais que je dois adorer Dieu. Je sais que je dois m'abandonner complètement entre ses mains. Dieu me garde comme un père. Mais quelle sera ma finalité? Je ne le sais pas. Et je ne peux pas le savoir. La finalité d'une âme intellectuelle, ça ne peut être qu'à l'égard de Dieu. Puisque Dieu est la fin. Mais jusqu'où peut-on compter participer au bonheur de Dieu? En point de vue purement naturel, je crois que je ne peux pas le préciser. Je dois m'abandonner en sachant très bien que Dieu fera pour moi plus que ce que je peux penser, je peux découvrir. Parce que la bonté de Dieu est plus vaste que ce que j'en sais. Alors ça, je crois qu'on peut le dire, et même on doit le dire. Parce que s'abandonner à Dieu, c'est reconnaître que tout ce que Dieu voudra pour moi sera mon bien. Et que la volonté de Dieu sur moi sera plus parfaite que ce que j'ai découvert. Donc dans l'abandon, il y a cette remise de notre volonté au bon plaisir de Dieu. En comprenant que Dieu est plus grand que nous, infiniment plus grand que nous. Et donc se remettre entre ses mains, c'est nécessairement ce qui est de meilleur pour moi. Ça va quand même très loin, cet abandon religieux. C'est se remettre entre les mains de Dieu, dans son gouvernement sur moi, qui est un gouvernement paternel. Et donc c'est se remettre entre ses mains en acceptant de ne rien connaître avec précision. Et ne rien connaître avec précision, c'est m'ouvrir à son amour infini. C'est une attitude qui peut être très belle, très grande, parce que la connaissance naturelle de Dieu me montre sa miséricorde infinie. C'est du côté de la miséricorde que je crois qu'il faut essayer de regarder ça. Quelle connaissance naturelle j'ai de la miséricorde de Dieu? Dieu est nécessairement infiniment miséricordieux. Ça, je peux l'affirmer naturellement. Est infiniment miséricordieux et vis-à-vis de l'homme qu'il considère comme son chef-d'œuvre, puisque l'homme dépasse toutes les autres créatures physiques et que l'homme est vraiment créé directement par Dieu. Donc il y a un regard personnel qui permet à la créature de s'abandonner. L'abandon est un acte personnel. Je m'abandonne à une personne. Et c'est autre chose que la remise de tout nous-mêmes à un destin aveugle. Si l'abandon dépasse les précisions, cependant l'abandon reste personnel. On s'abandonne entre les mains d'un Dieu qui a montré son amour infini en créant l'âme. Et que, ayant créé l'âme immortelle, Dieu sera nécessairement celui qui nous aime infiniment et qui réserve pour nous un bonheur réel, son bonheur à lui. Et c'est la paternité, je crois, qu'on doit creuser. Qu'est-ce que c'est qu'un père ? Et en découvrant Dieu, on découvre que Dieu est père de mon âme. Et donc, il n'a pas pu créer mon âme sans lui réserver un bonheur personnel. Et ce bonheur personnel ne peut être qu'un bonheur qui vient de Dieu. Ça va très loin, l'abandon, suite de l'adoration. Ça va très loin. C'est une attitude religieuse, hein, faut pas l'oublier, qui se fonde sur l'adoration. Notre espérance chrétienne s'empare de cet abandon pour me donner quelque chose de beaucoup plus précis. Je sais que je verrai Dieu face à face. Ça, je ne peux pas le dire naturellement. Je sais que Dieu m'a préparé un bonheur. Et quand on disait que les enfants morts sans le baptême avaient un bonheur naturel. C'est ça qu'on veut dire. Et c'est très délicat, ça. Parce que on peut dire que la prière des parents, la prière des amis concourt à sauver les hommes. Et le mystère de la vie chrétienne est catholique, donc absolument universel. Et donc tous ceux qui sont plus ou moins en relation avec nous participent à cette universalité. L'éthique religieuse implique la prière, l'adoration, l'abandon et la prière. La prière, c'est exprimer à Dieu les désirs légitimes que nous avons dans notre cœur et à les exprimer à Dieu sous une forme de demande. nous offrons à Dieu tous nos désirs naturels de bonheur. Et nous demandons à Dieu de réaliser ce bonheur. C'est le sens de la bonté et la miséricorde de Dieu qui fondent mon espérance et ma confiance. Et donc, tous les attributs que nous voyons sur la bonté infinie de Dieu me permet d'avoir une prière à l'égard de Dieu qui soit fondée sur sa miséricorde et son amour, sa bonté. Il y a donc une prière qui s'étend à toute l'humanité. Devons prier pour toute l'humanité, naturellement. Et savoir qu'on est responsable de ses frères. On est responsable de l'univers qui va à la dérive. Et on doit prier pour cet univers qui est le nôtre, naturellement. Et c'est important de comprendre cela pour comprendre qu'ils sont tous nos frères. Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, nous avons un devoir naturel de prier pour eux, parce qu'ils sont des hommes complètement aveuglés, puisque la parole du psaume resterait incipiens dixit in cordes vo non est eus. Non, incipiens, ils sont des insensés, ceux qui disent dans leur cœur Dieu n'existe pas. Tous les incroyants, nous devons les considérer naturellement comme des insensés. Parce que c'est dans l'homme reconnaître l'existence de Dieu, c'est souverainement sage. Ça dépasse toute prudence. C'est au-dessus de la prudence, puisque ça la fonde. Il y a une nouvelle prudence. Et donc, dans notre prière, au point de vue naturel, nous prions pour tous ces insensés, incipiens. Nous prions pour eux, c'est-à-dire nous invoquons la toute-puissance de Dieu de les éclairer. Nous n'avons pas le droit d'être insensible vis-à-vis d'eux. Se considérer comme insensible vis-à-vis d'eux, ce n'est pas humain. Ça ne fait pas partie de la connaissance que nous devons avoir de l'humanité et de nos frères dans l'humanité. Ça fait comprendre le sens de la prière du pape à Assise. D'unir tous ceux qui naturellement croient en Dieu. Et de pouvoir prier avec eux vis-à-vis de ceux qui rejettent Dieu. C'est un sens métaphysique, C'est parce que sa mère a ce sens métaphysique qu'il fait ça. Et les gens qui ne le comprennent pas oublient que nous avons cette prière naturelle qui existe, que la foi ne supprime pas, elle existe et nous devons la développer, nous devons la préciser pour voir tous ceux pour qui nous devons prier. Ils font partie de la famille humaine. Et faisant partie de la famille humaine, nous devons les prendre dans notre prière, puisque la vie chrétienne ne détruit pas la nature humaine, mais permet à cette nature humaine d'aller jusqu'au bout de ses exigences. Et c'est pour ça que faire une philosophie de l'homme religieux, c'est très important. Ça ouvre, si vous voulez, notre cœur à la prière vis-à-vis de tous les hommes, de tous ceux qui sont les plus misérables, les plus pauvres. C'est une pauvreté la plus grande qui soit, de ne pas reconnaître l'existence de Dieu. C'est la plus grande des pauvretés. Puisque c'est se fermer à ce qu'il y a de plus grand comme vérité, affirmer l'existence de Dieu comme créateur de notre âme. Donc, ce sens de la prière et de l'abandon, il faut le développer, et nous devons le développer pour comprendre l'extension catholique universelle à l'égard de tous les hommes. Tous les hommes sont nos frères. Et considérer leur misère, leur pauvreté, exige de nous de les porter, de les soulager, de prier pour eux.